pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Y'a du partout dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, il y a du baston dans la tour. Il y a du baston dans la tour. Il y a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. J'ai fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Ça va saigner.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée sur Fréquence Paris Pluriel comme tous les vendredis soirs. Ce soir, derrière le micro, en face de moi, Floréal.
Salut à toutes, salut à tous.
Au bocal, Manu. Salut. Rejoint plus tard par Elsa qui nous lira un petit texte et on aura Alex au téléphone pour nous parler de ce qui se passe dans les CRA depuis une semaine où ça a beaucoup protesté et où les prisonniers sont poursuivis pour ça. Je vous rappelle les lieux de diffusion de L'Envolée, parce qu'on n'est pas diffusé que sur FPP, c'est bien de le rappeler de temps en temps. On est rediffusé à Annonay sur la radio d'ici, à Arras, sur la radio PFM, au CD de Guingamp sur Radio Crèze-Braise, à Mulhouse sur Radio MNE, à Saint-Julien-Molamolette sur Radio DC et Radio en ligne Station Station, ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Alors, ce soir au menu, on va revenir évidemment en long sur une actualité qui a été évoquée la semaine dernière lors de la dernière émission. Il s'agit d'une plainte de l'administration pénitentiaire contre le journal de L'Envolée, le numéro 52 du journal, qui a donné lieu donc à une note interne de la direction de l'administration pénitentiaire, qui a interdit sa diffusion en détention sur toute la France, ainsi qu'une plainte, a-t-on appris pour le moment, dans la presse la semaine dernière, qui relayait cette information. Donc évidemment, on va revenir en long là-dessus. Ensuite, on aura un petit la lecture justement d'un texte plus ancien qu'on a déjà publié dans le journal par Elsa qui revient sur la question du mitard et de la violence et de la difficulté de la vie qu'est le mitard précisément. Enfin, la difficulté de la vie, l'horreur de la condition qui consiste à être enfermé dans un mitard par un courrier d'Enrique d'il y a quelques temps. Et puis on reviendra sur les anciennes procédures auxquelles L'Envolée a eu à faire face au fur et à mesure de ses années de publication, notamment dans les années entre 2003 et 2010. On reviendra un peu sur ce qui était poursuivi à l'époque, pourquoi et comment ça s'est soldé par des procès, ce qui s'est passé au procès. Et puis, et donc, comme je le disais, après, on reviendra sur ce qui se passe depuis une semaine, notamment au centre de rétention, donc prison pour étrangers de Vincennes et du Ménil-Amelot. Mais pour l'heure, commençons donc par lire un communiqué de L'Envolée, qui est donc publié ce jour en réponse à la plainte que nous subissons. Il n'y a que la vérité qui blesse. Communiqué du journal L'Envolée suite à la censure du numéro 52. Le 4 janvier dernier, par une note de la direction placardée dans toutes les prisons, L'administration pénitentiaire a interdit la diffusion du numéro 52 du journal L'Envolée aux prisonniers abonnés. En même temps, elle a porté plainte pour diffamation et injure. Depuis 20 ans, L'Envolée soutient que les prisonniers, les prisonnières et leurs proches sont les mieux placés pour énoncer quelques vérités sur la prison. À travers cette plainte et cette censure, il s'agit donc simplement de réduire au silence cet espace de libre expression, d'information et d'élaboration collective d'une critique de la prison. L'Envolée publie des textes et des lettres qui décrivent le quotidien carcéral, dénoncent les conditions de détention et combattent l'enfermement. Notre journal est un porte-voix pour celles et ceux qui ont été mis au banc de l'humanité. En effet, aucune parole de prisonnier, de prisonnière, ne peut être rendue publique hors du contrôle de l'administration pénitentiaire. Conversations téléphoniques et parloirs peuvent être écoutées, et les courriers sont lus systématiquement, les passages dérangeants censurés. De plus, pour trop de gens à l'extérieur, toute parole sortie des prisons est forcément une parole infâme, toujours suspecte d'exagération ou de mensonge. Les pages mises en cause par l'AP reviennent sur plusieurs morts en détention. Le 9 septembre 2020, Idir est mort au quartier disciplinaire de Lyon-Corbas, 2 semaines avant sa sortie. L'AP affirme qu'il s'est pendu, mais sa famille et ses proches ne croient pas à cette version, qui est aussi mise en doute par des témoignages de prisonniers. Le 14 avril 2018, Jawad a trouvé la mort au quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Toulouse 6. Ses voisins de cellule ont immédiatement dénoncé un meurtre maquillé en suicide, entre guillemets, et mis en cause une équipe de matons violents qu'ils appelaient, entre guillemets aussi, l'escadron de la mort. Il est aussi question de la mort suspecte de Sambali à Saint-Martin-de-Ré en 2016, ainsi que de Jean-Christophe Merlet, un prisonnier handicapé à vie après avoir été roué de coups par une équipe de surveillants de cette prison. Tous les 3 jours en moyenne, l'administration pénitentiaire signale une nouvelle mort au sein de la population pénale. Administrativement, les prisonniers et les prisonnières sont sous l'entière responsabilité de l'AP. Il s'agit donc à minima de non-assistance à personne en danger. Quand une personne enfermée met fin à ses jours, c'est bel et bien la prison qui la tue, car le choc de l'enfermement, les conditions de vie inhumaines et la longueur des peines plongent certains prévenus et condamnés dans le désespoir. Mais ceux et celles qui connaissent la réalité carcérale pour l'avoir éprouvée dans leur chair parlent parfois de « mort suspecte » entre guillemets à propos de certains suicides en prison. Des surveillants pénitentiaires humiliés et tabassent à l'abri des hauts murs des prisons, particulièrement dans les quartiers disciplinaires et dans les quartiers d'isolement. Et trop souvent, des prisonniers y meurent. Les prisonniers et prisonnières savent ce qui les attend quand ils et elles dénoncent ces violences, intimidations et punitions implacables. Ils sont souvent mis au cachot ou font l'objet d'un transfert disciplinaire, ou les deux. Lorsque des proches ne croient pas non plus à la version officielle après un décès en détention, la paix et la justice invoquent tantôt des « problèmes de santé », entre guillemets, tantôt une consommation de stupéfiants, bien souvent des troubles psychiatriques, et presque toujours des violences à l'encontre des surveillants. Comme celle des prisonniers et prisonnières, la parole des familles est presque invariablement reçue avec méfiance, quand ce n'est pas du mépris. Là où la parole est censurée, là où les prisonniers sont punis s'ils dénoncent ce qui se passe, là où les seules images disponibles sont celles de l'administration pénitentiaire, là où les proches ne sont pas entendus, ce serait à L'Envolée de prouver la réalité des violences pénitentiaires dont elle se fait l'écho. Eh bien non. C'est à l'administration pénitentiaire de prouver qu'aucun de ses agents n'humilie ni ne tabasse ceux dont elle a la garde. Que ceux qui administrent la prison et ceux qui la défendent se chargent de démontrer qu'elle ne tue pas, que l'enfermement n'est pas indigne et qu'il ne constitue pas une torture. Le journal a déjà été poursuivi, notamment lorsque nous avons publié des lettres dénonçant les pratiques des équipes régionales d'intervention et de sécurité, ERIS, ces surveillants cagoulés mobilisés pour réprimer les mouvements de protestation à l'intérieur des prisons. Et quand des prisonniers ont dénoncé la torture blanche des quartiers d'isolement, les QI, qui ont remplacé les QHS, quartiers de haute sécurité de sinistre mémoire. Et bien comme chaque fois, nous ferons de la plainte à laquelle nous allons faire face, une occasion de plus de faire entendre des récits et opinions sortis de ces lieux où une violence d'État s'exerce loin des regards. Puisque la prison reste un gigantesque angle mort de notre société, puisse la censure qui frappe aujourd'hui L'Envolée permettre à un plus grand nombre d'entendre enfin la voix des premiers, des premières concernées. L'envolée, le 29 janvier 2021.
Donc ça, c'est un communiqué qui va être largement diffusé, puisque nous avons du soutien, un peu, qui commence à se manifester.
Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour reconstituer un peu le fil des événements, parce que, comme le dit le communiqué au début, le 4 janvier, une note est affichée dans certaines détentions en France, dans la plupart des détentions. Note de la direction donc, nationale, dont je vais lire un petit extrait. Elle y dit que, donc c'est donc une décision interdisant l'accès des personnes détenues à une publication écrite dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Considérant que le numéro 52 de la revue L'Envolée, publié au mois d'octobre 2020, comporte un corpus d'articles regroupés sous l'intitulé « Peine de mort en prison », des pages 48 à 56, que ces récits allègent de faits de violence volontaire commis par des personnels de l'AP dans l'exercice de leurs fonctions contre des personnes détenues ayant pu entraîner leur mort. Qu'en outre, ces écrits imputent aux responsables hiérarchiques des auteurs de ces violences alléguées de ne pas les avoir dénoncés. Considérant que le numéro 52 de L'Envolée contient ainsi des propos revêtant un caractère diffamatoire à l'égard des agents du service pénitentiaire. Considérant d'autre part que les propos tenus dans ce même numéro, eu égard à leur teneur et leur gravité, sont de nature à inciter les personnes détenues, et ça on reviendra là-dessus, incarcérées au sein des établissements pénitentiaires à la violence contre des personnels de direction et de surveillance, désignés comme auteurs ou complices d'assassinats de personnes détenues, ces comportements étant au surplus présentés comme indissociables de la mission du service public pénitentiaire. Cette phrase est infinie, mais on va y revenir pour essayer de la comprendre. Considérant que la revue L'Envolée est distribuée gratuitement aux personnes détenues qui y sont abonnées, permettant par là une large diffusion auprès des personnes détenues dans l'établissement pénitentiaire. Considérant enfin qu'il contient des menaces graves contre la sécurité des personnes des établissements, l'accès des personnes détenues au numéro 52 de L'Envolée du mois d'octobre est interdit dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. 4 janvier 2021. Donc on a commencé à recevoir d'un peu partout en France des gens qui disaient ce qui arrive dans la prison là, parce que forcément c'est les prisonniers qui affichaient aussi ces trucs là, des oxys et tout, qui disaient voilà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. On a eu aussi en fait un retour de quelqu'un qui s'est fait saisir son journal en cellule, qui l'a reçu donc après, il l'a reçu juste après que la note soit affichée. Il s'est fait saisir le journal, il est passé au prétoire. Alors il n'est pas passé au prétoire que pour ça, il est passé parce que visiblement les surveillants se sont saisis aussi de ce truc-là pour lui mettre sur le dos. Il n'aurait pas été puni pour ça pour le moment, mais on tient à être très vigilant là-dessus et on sera vraiment au taquet dans les temps à venir pour être sûr que personne ne soit puni pour la possession d'un journal qu'ils ont reçu avant qu'il soit interdit en détention, parce que c'est ça ce qui se passe. La note date du 4 janvier pour mettre fin à la circulation d'un journal daté d'octobre 2020.
Je rajoute une chose, il s'agit d'une interdiction concernant ce seul numéro.
Évidemment. Pour l'instant. Évidemment.
C'est important de le dire parce que...
C'est du droit de la presse, c'est-à-dire que entre le moment où le journal est publié et le moment où il peut être censuré, officiellement empêché de circulation, pour cause de propos diffamatoires, c'est ça l'idée, il y a un maximum de 3 mois. Ce qu'a fait l'administration, c'est-à-dire que là, elle aurait agi dans les 3 mois, a priori, pour l'interdire. Sauf qu'entre-temps, le journal, il est arrivé en détention. Et c'est aussi pour ça que c'est une note nationale et qu'elle réagit comme ça. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le mois de fin novembre, sans doute, et décembre, très certainement, on sait que la CGT pénitentiaire, pour ne pas la nommer, notamment celle de Condé-sur-Sarthe, avait publié un tract incitant et demandant et exigeant de sa direction, puis plus loin la direction de l'administration pénitentiaire, une saisie du numéro, exactement au motif, pour les mêmes motifs que ce qui est développé dans le communiqué de l'administration pénitentiaire, enfin dans la note de l'AP. Ce communiqué de la CGT pénitentiaire, de Condé-sur-Sarthe donc, ce fameux QHS, qu'on appelle QHS, régulièrement dénoncé effectivement dans les colonnes du journal et dans les émissions de radio, ce qui ne plaît pas évidemment au personnel pénitentiaire qui travaille là-bas. disait que la CGT pénitentiaire, on est en pleine période de manifs qui dénoncent les violences policières à l'extérieur. On est en pleine période de manifs contre la loi de sécurité globale, où des sections de la CGT à l'extérieur, hein, dans le monde, appellent à manifester. Et là, la CGT pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe ne trouve pas mieux que de demander à sa direction de censurer la libération de la circulation du numéro. Tout en répétant évidemment, hein, au passage, nous sommes très attachés à la liberté d'expression, base de toute démocratie, mais la liberté d'expression ne doit pas permettre la diffamation, encore moins l'incitation à la haine. Donc ça, c'est déjà contenu dans ce qu'ils disent. La diffamation, ce serait pour le fait qu'un certain nombre de faits sont publiés dans le journal, et que ces faits, des déclarations de gens, qui disent que des gens sont morts aux mains de l'administration pénitentiaire. L'incitation à la haine, ce serait le fait de dénoncer ces paroles-là, le fait de les écrire et d'en rendre responsables des agents de l'administration pénitentiaire, sans les nommer, en l'occurrence. Le fait de rendre responsables, ce serait une incitation à la haine. Ce que dit exactement la CGT pénitentiaire dans son tract de mi-décembre, selon la CGT, l'appel à la haine de ce journal envers les surveillants distribués à la population pénale, ironie du sort par des surveillants, risque incontestablement d'attiser encore plus la haine de certains. C'est-à-dire qu'en fait, publiant des propos haineux, on attiserait la haine des gens qui sont à l'intérieur. Mais, inversion totale de raisonnement, en fait, l'envolée, comme le dit le communiqué, ne fait que publier des paroles directement reçues de la part de gens qui sont enfermés et subissent, en fait, un mode de vie imposé par leur enfermement et le fait d'être aux mains de surveillants de l'administration pénitentiaire en permanence, de vivre 24 heures sur 24 avec des gens qui décident pour soi de la plupart de ces faits et gestes. L'envolée n'est qu'un espace de diffusion de cette parole, de discussion de cette parole, pour ce que ces paroles se confrontent, construisent un point de vue commun et arrivent à se défendre contre des situations qui sont jugées intolérables. C'est ça, l'enjeu de l'envolée. C'est pas une incitation à la haine. Si haine il y a, elle préexiste. Elle n'est pas du fait de l'envolée, de fait. Du coup, là, cette formulation dit, en fait, et le reconnaît, hein, en fait, entre les lignes, puisque la haine dit attiser encore un peu plus la haine de certains. Mais si il y a haine, c'est pas dans le vent, en fait. S'il y a haine, c'est parce que, en fait, des conditions de vie sont inhumaines et que certains surveillants pénitentiaires profitent effectivement de leur fonction pour tabasser des gens, les humilier, et que parfois des gens meurent. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour des surveillants d'entendre ça. Dommage, tant pis, tant mieux pour eux, mais je veux dire, c'est insupportable. Mais pour autant, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit dit tel quel, sans forme, sans plus de forme que ça, il faut que ce soit dit. Et ça finit du coup par constituer un problème pour l'administration pénitentiaire. Parce que c'est ça ce qui se passe.
Disons que ça fait longtemps que l'administration pénitentiaire n'a pas écouté ces syndicats de matons à ce point-là. Là, c'est une vraie. Disons qu'ils donnent un gage assez incroyable là aux surveillants en ce moment. Et c'est pas pour rien que l'administration le fait. On sait que la situation est hyper tendue en ce moment et c'est vraiment la merde en prison. On le sait. Le coronavirus est partout, il y a de plus en plus de cas qui se déclarent. Il y a la soi-disant dépopulation carcérale est très 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 loin, qui était liée au premier confinement, etc., etc., au ralentissement des tribunaux. Bon, déjà, on a montré à quel point c'était une imposture, mais là, en plus, plus que jamais, il y a des gens qui rentrent à l'intérieur. On sait que ça craque de partout. La paix réellement a peur de nouveau que les prisons craquent de partout, que ça crame, comme ça a été le cas en mars, pendant le premier confinement. Il faut quand même rappeler quelque chose. C'est que là, on est en train de parler là, d'un troisième confinement, mais les prisons n'ont toujours pas été déconfinées. Il y a des prisonniers qui n'ont toujours pas vu leurs proches, qui n'ont toujours pas vu leurs enfants, parce que les parloirs sont soit inexistants, soit inacceptables. Donc c'est ça la situation en ce moment, et ça l'administration le sait très bien. Et pour maintenir l'ordre en détention, l'administration doit donner quelques garanties à ses surveillants. Et c'est ça ce qui se passe. Parce que le fait que le CGT fasse un communiqué haineux contre l'envolée, contre tel prisonnier, tel autre, ça c'est déjà vu. Mais le fait qu'elle les écoute à ce point-là et qu'elle fasse, qu'elle affiche dans toutes les coursives de France un mot interdisant l'envolée, ça c'est une nouveauté qui est liée à cette situation de tension. Donc il faut aussi, renvoyer cette histoire et la renvoyer au fait que c'est aussi leur jeu entre eux là, qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que c'est aussi une marque de faiblesse de leur part de faire ça. Le fait qu'on ait une plainte, bah nous, de toute façon, il faut quand même le rappeler, c'est le rôle aussi de l'envolée de diffuser cette parole et de la permettre et aussi de la garantir et de prendre des procès s'il faut. Si on doit prendre des procès, on le fera. Ça a déjà été le cas. Plus tard dans l'émission, on vous racontera comment se sont déroulés les procès précédents. On est prêt à les assumer. Je veux dire, il ne faut pas que ça décourage, parce que là, c'est une opération d'intimidation des prisonniers pour qui la boucle, pour qu'ils arrêtent de s'exprimer. On sait déjà à quel point c'est difficile de s'exprimer, que les proches s'expriment. Et le fait que toute la famille Didier arrive à manifester dans la rue, c'est un truc qui est assez exemplaire. Et ça ne s'est pas vu, très rarement vu, d'histoire d'envolée. Franchement, il faut remonter très loin pour ça. Mmh. Et c'est hors de question que cette parole soit muselée. Donc nous, on est là, et il faut continuer, et on continuera, par tous les moyens, à diffuser cette parole.
Dans ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'il y a une vérité... Il y a une vérité de la petite machine interne à l'administration pénitentiaire où, comme tu dis, ils donnent des gages à certains surveillants pour dire, voyez, en fait, peut-être qu'on vous donnera pas d'argent, peut-être qu'on vous donnera pas de brosouf, peut-être qu'on vous donnera pas ceci, cela, que vous irez continuer à transporter, à amener le Covid, à le prendre, enfin bref, à vous déplacer avec ça, etc. Mais, s'il vous plaît, ne faites pas de mouvement, ne faites pas de blocage, ne faites pas de trucs s'il se passe des problèmes à l'intérieur. Vous avez vu, on vous soutient. Dès que vous dites que vous êtes vraiment attaqué sur le fond, sur ce truc qui est insupportable. Et ce truc qui est insupportable, donc là c'est la deuxième chose, c'est ça. C'est le fait que des surveillants soient directement... Qu'on dise qu'il y ait deux choses qui soient dites en fait dans ces pages-là. Et c'est ce qui est dit dans le communiqué. Ces pages, elles disent ce que disent tous les numéros de l'envolée. Elles disent à la fois la prison tue, structurellement. Et d'ailleurs, il y a une formule hein, qui est dite dans le communiqué de... la note de l'administration pénitentiaire qui dit exactement que le problème, c'est qu'on dise que c'est structurel, hein, qu'il y a un problème, que la prison tue structurellement. Bon, je ne reprendrai pas la phrase exacte là. Mais, donc il y a ça, dire que la prison tue, c'est-à-dire que l'enfermement en lui-même est porteur de mort et que les suicides sont toujours des morts... qui se passe pas à n'importe où, en fait. C'est pas n'importe qui se suicide n'importe où. C'est quelqu'un qui vit intégralement sous contrainte et qui est dépossédé de tout le reste de sa vie, qui met fin à ses jours. En fait, du coup, bah forcément, le lieu où il se fout en l'air a une incidence et on ne peut pas ne pas en rendre responsable l'enfermement lui-même. Donc ça, c'est une base, mais qui est partagée. Je veux dire, on n'est pas les seuls à dire ça. On n'a pas inventé, la poudre en disant ça. Hein. Je veux dire, c'est un fait. Et, et à côté de ça, on dit... qu'on publie des paroles de gens sans les remettre en cause, sans les reformuler. Et si des prisonniers ou des prisonnières disent eux-mêmes que des surveillants ont tué quelqu'un au mitard à côté d'eux, on le publie tel quel. Et c'est ce qui fait qu'effectivement cette parole, elle est donc brute, je ne sais quoi, elle est insultante, elle est ce qu'ils veulent, etc. Mais parce qu'en fait, elle n'est pas juste, elle n'est pas passée par la reformulation ou une hypothèse. On n'a pas foutu des guillemets et on n'a pas foutu du conditionnel, forcément, quand on cite directement la personne. Et quand des prisonniers le disent, ça a été le cas pour Jawad. Jawad, à Seis, il y a 2 ans, des prisonniers, des dizaines de prisonniers à l'intérieur de cette prison prennent la peine de bloquer la promenade, prennent la peine de faire une banderole qui fout à leur fenêtre avec marqué « Maton assassin », prennent la peine par dizaines de sortir des informations sur ce qui se passe dans le mitard de cette prison, usine du sud-ouest de la France, où une équipe particulière de Maton est identifiée par tout le monde comme étant particulièrement violente, Ils disent que Jawad n'était pas suicidaire et qu'il est rentré en bonne santé dans ce mitard et qu'il en est sorti les pieds devant. Et que 2 ans après, est publié dans d'autres presses, qui même pas que la nôtre, hein, je veux dire en l'occurrence pas que l'Envolée, et c'est ce qu'on reprend dans un bout de ce journal, là on cite hein, exactement, le journal qui republie que des choses qui étaient dites par les prisonniers à l'époque se trouvent, ou se trouveraient peut-être un petit peu confirmées par l'enquête qu'il y a depuis, même si rien ne sort vraiment et que l'administration effectivement n'a pas envie que ça s'ébruite. Alors, l'administration n'est pas contente, ça c'est autre chose, on verra après. Mais en tout cas, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que un communiqué de prisonnier sort, il est publié, on le publie à l'époque. Nicole Belloubet, alors ministre de la Justice, dit « attention, attention », elle monte au créneau pour défendre ses personnels en disant un peu de la même manière que là, hein, en disant « attention, ceux qui propagent ces allégations », elle avait parlé d'allégations à l'époque, on va les poursuivre. On a dit à l'époque, très bien, on assume, on fait exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire, très bien, poursuivez. Non pas que ça fasse plaisir, attention, hein, on va pas faire les matamores, hein, on n'aime pas du tout se retrouver, la justice, c'est pas notre terrain, on n'y croit pas beaucoup. Hein. Donc franchement, c'est pas un grand plaisir de se retrouver.
C'est le ministère en plus. Hein,
oui, voilà.
C'est
quand même toujours drôle de se retrouver face à quelqu'un qui est à la fois jugé parti, parce que c'est vraiment ça ce qui va se passer. Hein, mais comme pour n'importe quel prisonnier ou prisonnière qui se retrouve confronté à ses enfermeurs quand il y a des trucs. Donc, je veux dire, quand on dit que c'est structurel que l'information ne peut pas sortir, quand on dit que c'est structurel qu'il y aura toujours une barrière anti pour tuer ces paroles-là dans l'œuf, c'est pareil, on n'a pas inventé la poudre. Je veux dire, c'est un fait, c'est structurel. Des gens se défendent eux-mêmes, c'est normal. En fait, on n'est pas étonné que des matons se défendent entre eux. On n'est pas étonné que la justice défende les matons et on n'est pas étonné qu'il s'agisse pour eux de décrédibiliser la parole des prisonniers qu'ils enferment tous les jours. Je veux dire, tout ça est strictement à sa place. Et du coup, pour finir sur ce que tu disais, effectivement, nous, notre place, c'est juste de relayer cette parole et de lui donner le plus d'écho possible. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va continuer à faire. C'est de ne pas se laisser du tout impressionner par ces menaces. C'est d'inciter les prisonniers à continuer. En fait, non pas inciter à la haine, hein, mais inciter à sortir les informations et la vie qu'ils mènent et le sort qu'ils auraient fait. Et ça, oui, on incite, effectivement. On incite à ce que l'information circule et que les faits sortent de ce qui se passe en détention et dénonce les violences pénitentiaires. Ce mot de violence pénitentiaire, il est aujourd'hui prononçable. Il est prononçable parce que des prisonniers et des prisonnières le disent depuis des années. Voilà. Comme la torture blanche dans les QI et dans les QD. Il y a des années, on ne pouvait pas le dire. Puis la CEDH finit par dire ce mot. Parce qu'en fait, mais c'est des prisonnières qui l'ont dit en premier, en fait, ce qui se passait. C'est eux, c'est elles, c'est les gens qui vivent cette situation, comme on le dit dans le communiqué, les premiers, les premières concernées, qui peuvent mettre des mots sur ce qu'ils vivent, en fait. Et c'est la vérité. Et cette vérité, c'est celle-là qui nous intéresse. Enfin, comment dire ? C'est cette formulation de la vérité qui nous intéresse. Et c'est cette manière de le dire dont l'envolée, enfin, je veux dire, l'envolée n'existe que par et pour ça. Donc, de fait, l'envolée ne va pas cesser de publier ses paroles, ne va pas cesser de les formuler exactement de la même manière. Torture blanche, peine infinie. Je veux dire, il y a 20 piges, on parlait de peine infinie, c'était ça. Peine d'élimination sociale, on disait peine d'élimination sociale pour dénoncer l'allongement des peines infinies. Aujourd'hui, on l'a entendu dans la bouche d'un procureur il y a 5 ans. Voilà. Là où à l'époque, si tu disais peine d'élimination sociale, ils disaient « mais non, c'est pas vrai, etc. » Aujourd'hui, c'est revendiqué. Voilà. Il faudrait pas que demain, le mot de violence pénitentiaire soit revendiqué par l'administration. Hein. C'est pas ça qu'on dit. Parce que là, ça les gêne encore de le dire. Hein. On en est encore à ce stade-là. Mais dans quelques années, ça leur fera même plus mal, sans doute qu'on leur dise ça. Là, on dit ça. On dit donc qu'il y a des morts. On dit qu'il y a des gens qui sont torturés. Et on dit que tous les jours, il y a des gens qui sont humiliés. Voilà, c'est ça. Après, ce qu'on dit aussi dans ce communiqué, c'est si les syndicalistes de la CGT pénitentiaire se sentent insultés par ces propos, qu'ils fassent le travail eux-mêmes, qu'ils aillent regarder ce qui se passe. Effectivement, on va citer, qu'est-ce qu'on va citer aujourd'hui ? Aujourd'hui, enfin, comme dans toutes les émissions, on peut toujours citer, on peut dire, allez regarder ce qui se passe à Seyss, évidemment, hein, dans ce fameux mitard, en fait. Vous qui travaillez, en fait, c'est vos collègues, bah regardez, puis on verra bien si vous ne trouvez pas vos collègues, machin. Regardez ce qui se passe à Sarreguemines. On a eu vent d'histoires qui se passaient à Sarreguemines. Regardez ce qui se passe à Villefranche-sur-Saône. Secret de Polichinelle. Je veux dire, la Terre entière, le contrôleur, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, galère à sortir un rapport sur l'histoire de ce qui se passe là-bas, parce que tellement c'est énorme. Et comment structurellement, en fait, la prison est dominée par de la violence de la part des personnels. Qu'est-ce qui se passe? Allez regarder à Mont-de-Marsan. En fait, si vous vous sentez insulté parce que vous, vous estimez avoir les mains propres, ou autant aussi démocrate que vous vous prétendez, eh bien, faites ce travail d'aller virer ce que vous appellerez des pommes pourries, en fait. Mais en fait, vous le dites vous-même. C'est pas le problème, il n'est pas que du côté des pommes pourries. En fait, il est structurel, en fait. Car la détention génère forcément de la violence, quoi. Enfin, je veux dire, forcément, c'est un fait. Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 sur toutes les plateformes et sur un paquet d'autres radios en France. Merci de nous écouter, c'est très important, encore plus en ce moment. Ce que vous venez d'entendre, c'était Life is Like That de Big Bill Bronzy, Sonny Boy Williamson et Memphis Slim. On continue encore un tout petit peu sur justement cette fameuse actualité de censure, tentative de censure et empêchement de circulation du numéro 52 de L'Envolée dans toutes les détentions par l'administration pénitentiaire. Le dernier point qu'on veut aborder, c'est une manière de reformuler ça, c'est toujours d'une autre manière, la même chose et la même idée, c'est de dire, en fait, c'est la réalité de l'enfermement, c'est la réalité de la torture carcérale, c'est la réalité de la violence subie par les gens qui la subissent à l'intérieur, qui nous impose de faire vivre cet espace de libre expression, de libre discussion, de libre opinion et de libre critique collective et de l'enfermement et de la prison. C'est-à-dire que tant que l'administration pénitentiaire ne permettra pas aux prisonniers de s'exprimer sans contrôle vis-à-vis du monde extérieur, tant que la société tant que la société dans son ensemble ne considérera pas que la parole des prisonniers et des prisonnières, elle est tout aussi recevable que celle de n'importe quelle personne à l'extérieur qui vit une situation et qui la dénonce, ce petit espace de liberté que constitue L'Envolée est nécessaire et continuera d'exister. Et on ne doute pas que l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice ne vont pas d'un seul coup permettre un droit d'association politique et une liberté de parole. Hein, je veux dire, tout ce qui a été gagné par des prisonniers a été gagné de haute lutte au fur et à mesure des années. Et dès que les gens ne défendent pas cette liberté, elle se perd. Parce que la liberté, comme on a tendance à le dire un peu souvent dans ce journal et à cette antenne, c'est un rapport de force, c'est un rapport social, la liberté. Ça n'existe pas en soi, comme ça. D'ailleurs, on remercie les gens qui, à l'occasion de la sortie d'un article dans Libération sur cette censure que nous subissons, ont soutenu directement l'envolée en faisant... en s'offusquant de la décision de l'administration pénitentiaire, notamment Prison Insider, Abalekra, Cerveau non disponible, la LDH, qui parle de liberté d'information en disant que la revue L'Envolée, qui donne la parole aux personnes incarcérées, est interdite dans les prisons, un fait rare et inquiétant. On a aussi, des polémiques sur Internet auxquelles on ne répond pas, parce qu'évidemment, ça énerve l'administration pénitentiaire que des gens soutiennent ce qui se passe. En tout cas, merci à celles et à ceux qui font circuler L'Envolée, non pas pour défendre L'Envolée en soi, hein, mais encore une fois, et on le répète, pour défendre les paroles qui sont incriminées à l'intérieur de ce journal, les paroles qui sont les paroles de vérité qui sortent de l'intérieur par les premiers et les premières concernées. Et du coup, on évidemment que dans les mois qui viennent, on aura l'occasion de revenir sur les différentes histoires qui sont contenues dans ces pages, hein, entre 46 et 58. On ne sait pas précisément qu'est-ce qui est visé encore comme phrase. On sait juste qu'il y a effectivement l'histoire de Jawad à Saïs, il y a 2 ans, mort au mitard de Saïs. On sait qu'il y a l'histoire de Idir, mort à Corbas il y a quelques mois au mitard de Corbas. Et il y a l'histoire de Sambali, mort à Saint-Martin-de-Ré en 2016. Et le fait que Jean-Christophe Merlet, qui a voulu dénoncer ce qu'il avait vu, et s'est fait lui-même frapper au point de finir à moitié paralysé, par une équipe de surveillants de cette prison à la sinistre mémoire qui terrifie même des membres de l'administration pénitentiaire en interne, car elle a été tenue par des matons particulièrement énervés. Donc on aura évidemment l'occasion de reparler de tout ça dans tous les temps qui viennent. On ne sera pas les seuls à le faire, parce qu'on sait que beaucoup de gens mettent leur nez dans ces histoires maintenant. Tant mieux, c'est parti. Enfin, donc vous pourrez bien toujours essayer de faire taire L'Envolée. D'autres gens s'occuperont de parler de ces histoires le plus largement possible, et nous, on continuera à le faire, bien entendu. Pour dire à quel point tout ça est nécessaire, et ben voilà ce qu'on apprend là, ce qui nous parvient ces jours-ci, là, une information vraiment hier, terrible.
C'est hier, on a reçu cette lettre. Bonjour à tous, mon neveu Jimoni Rousseau a été passé à tabac par des surveillants de la prison de Meaux, Choconin, ce lundi. Il est actuellement dans un coma artificiel, son cœur fonctionne, mais ce n'est pas le cas de son cerveau. Il est donc entre la vie et la mort. Ils essaient de camoufler leurs erreurs en nous disant qu'il a fait une crise cardiaque. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il devait rentrer dans sa cellule, mais a refusé, car on lui a mis un codétenu avec lequel il ne voulait pas partager sa cellule. Ils l'ont alors frappé à plusieurs, jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Et dire que cela s'est passé dans une prison et par des soi-disant surveillants dont l'un des buts est de garantir la sécurité de chaque prisonnier. Je me demande où va le monde. On a l'impression que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres, jusqu'à ce que ça nous frappe. C'est une épreuve très dure pour ma famille et moi, et nous serons très reconnaissants du soutien que vous pourriez nous apporter en partageant et dénonçant cette cause. Je veux que ça cesse, et surtout... on veut la justice.
Voilà. Typiquement, la réalité carcérale, la réalité de la violence carcérale, autour de laquelle on ne met pas de guillemets, en fait. Mmh. Enfin, on met des guillemets dans le sens où on sait qui parle, mais on ne prend pas de pincettes, on ne dit pas que cette personne a tort, que cette personne ment, ou qu'il nous faudrait plus de preuves avant d'oser... parler de cette histoire à l'antenne, en fait. Cette personne a fait suivre son petit communiqué qu'ils ont pris la peine d'écrire malgré la douleur dans laquelle ils sont et l'angoisse que de ce que leurs proches ne se remettent pas de cette histoire. Ils prennent la peine de faire ça, de le faire savoir, pas juste pour faire pleurer Margot, pour que la vérité existe et pour espérer un jour obtenir peut-être la justice, disent-ils à la fin. Et c'est très courageux de leur part. Et la moindre des choses, c'est que cette parole circule le plus largement possible et qu'elle donne lieu à ce que des gens s'intéressent à ça à l'extérieur. Parce que, comme ils le disent aussi très justement, quand cette histoire, enfin, on entend toujours ces histoires, on a l'impression qu'elles arrivent aux autres, et puis un jour, elles nous arrivent à soi, en fait, et c'est ça. Et personne n'est à l'abri de la prison, hein, comme le disait vraiment souvent Le Gros, en citant à cette même antenne pendant des années, hein, quand tu citais effectivement Trust, qui disait « il y a toujours une place pour toi et ton fils en prison », c'est ça, hein, tu vois, il y aura toujours une place pour toi et ton fils. Bah c'est ça, il y a toujours une place pour toi et ton fils en prison, puis il y a toujours une place pour toi et toi à la morgue, en fait, quand la prison nous amène à la mort.
Et j'ai envie de citer la directrice de publication de L'Envolée, qui disait lors d'un procès en diffamation dont on parlera tout à l'heure, alors qu'on lui disait « écoutez, il faudrait peut-être que vous fassiez des enquêtes plus sérieuses avant de diffuser tout ça », elle leur répondait « j'ai fait 7 ans de prison, je pense que c'est une enquête suffisante, non ?»
On va écouter Elsa, qui nous lit un texte de Henrik, publié dans un numéro précédent de L'Envolée, qui revient sur l'inhumanité du mitard, c'est-à-dire ce cachot, ce quartier disciplinaire.
Le mitard, ou l'école de l'inhumanité. J'avais 20 ans lorsque la première fois j'ai côtoyé le mitard. C'était à Fleury-Mérogis, 10 ans avant son lifting initié par Sarkozy et Rachida Dati. Suite à une embrouille de merde avec un surveillant, j'arrive au mitard pour moins d'une semaine. À l'époque, dans le bâtiment du Détroit. Et je découvre en même temps que la réalité du système, l'inhumanité, dans toute sa splendeur. Je passe quant au décor dantesque, les murs nauséeux, la gamelle en métal que le maton vous tend après qu'il ait servi des milliers de prisonniers avant vous. Draps pleins de puces, hurlements psychédéliques de prisonniers souvent plus disposés à être en psychiatrie, un maton pour 20 mecs. Si t'as mal aux dents, l'attente, pour voir un dentiste c'est minimum 2 jours. Si t'as le malheur de frapper à la porte parce que la douleur est trop forte, on te fait attendre encore plus longtemps. Sans parler de toutes les histoires de tentatives et de réussites, de suicides, de tabassage par des armées de matons, etc. Telle fut ma première expérience avec le mitard. Lors d'autres incarcérations, j'ai connu le mitard d'autres prisons, et à quelques détails près, ils partageaient tous ce même décor et ce même cynisme cruel des matons et l'arbitraire. Je me rappelle à Fresnes en 2012 d'un prisonnier qui venait d'arriver au mitard. En arrivant à 2 cellules de la mienne, je comprenais qu'il était fragile psychologiquement, malgré une faculté de discernement quand on l'entendait parler par sa fenêtre. Ce prisonnier n'était pas au courant des sales manières du mitard. Le soir de son arrivée, à la distribution du repas, il s'est permis de rappeler au surveillant qu'il devait absolument avoir ses médocs du soir. Ce dernier promet, mais n'est jamais revenu. Ne pouvant dormir sans ses médocs, il a fait du boucan toute la nuit. Le lendemain matin, il a eu l'audace, certes de manière véhémente, de rappeler au maton qui faisait l'appel le manquement de son collègue. Ce dernier, vexé, l'a pris en grippe. Des insultes volaient des deux côtés. Nous avions tous les oreilles collées à nos portes. Plus tard, dans la matinée, le maton est revenu, avec 5 collègues. Quand ils sont entrés dans la cellule du prisonnier, au bruit qu'on entendait, nous devinions ce qui se passait. Pour montrer notre solidarité à celui qui se faisait tabasser et pour maudire les matons, on a mis des coups de pied, des coups de poing dans la porte. En moins de 2 minutes, il a été maîtrisé. Mais l'altercation avait duré au moins 2 heures. Et à travers les échanges qu'on ressent dans ces moments-là, on a compris que le médecin était passé. Ensuite, les surveillants ont refermé sa cellule alors qu'il poussait des cris entre hargne et hystérie. Et puis, plus rien. C'est avec surprise que 3 jours plus tard, la voix du détenu s'est répandue à travers la fenêtre de sa cellule. En l'écoutant, on sentait qu'il ne savait pas où il en était. C'est nous qui, en criant, lui avons rappelé la bagarre avec les matons. Pendant qu'on lui racontait, sa voix monocorde et dérangée s'éteignait au fur et à mesure, car le seul souvenir qu'il gardait de cette altercation était le moment où il essayait de se débattre, pour ne pas être piqué par la seringue du médecin que les matons avaient appelé après l'avoir tabassé. Encore, assez conscient pour comprendre que ce qu'on lui avait injecté allait peut-être avoir des effets sur lui le restant de sa vie, le détenu s'est tu. Et plus tard dans la journée, il provoqua une nouvelle altercation avec les surveillants, qui décidèrent de l'emmener à l'hôpital, service psychiatrie. Ainsi, on abat, sans tuer. Je tenais à raconter cette histoire pour souligner qu'il n'est pas admissible qu'en quartier disciplinaire, le premier surveillant venu a quasiment droit de vie ou de mort sur les détenus qui subissent un système archaïque. Est-ce que c'est parce qu'à la base de toute société naissante, la force précède le droit, qu'il faille que, par un parallélisme barbare, la peine carcérale, la sentence précède l'humiliation ? Je pose cette question à ceux qui croient, qui prétendent entretenir par leurs impôts des détenus censés vivre dans l'oisiveté. Car si vous allez dans n'importe quelle prison de France, et sans doute ailleurs, vous constaterez qu'en général, les condamnés se plaignent moins de la peine de prison qui leur a été infligée que des mauvais traitements qu'ils subissent une fois incarcérés. Pour terminer, j'aimerais seulement dire que lorsqu'un homme ne peut pas faire confiance au système auquel il appartient, cet homme, s'il est lucide et objectif, réalisera qu'il est sans cesse en insécurité. Si la prison est l'école du crime, le mitard est l'université de l'inhumanité. Enriquez.
Toujours à l'écoute de l'Envolée 106.3 sur FPP et sur Internet, un petit peu partout. Vous venez d'écouter Riot Squad de Coxpower. Revenons sur ces premières tentatives de censure ou censure réelle et les procès que l'Envolée a eu à subir depuis son numéro 10, en fait. Ça date de décembre 2003, la première plainte qui a été déposée contre l'Envolée. Quelle était la lettre incriminée lors de cette plainte ?
Une lettre qui concerne des fouilles de cellules, écrite le 7 décembre 2005.
2003.
2003, pardon. Ouais. Mesdames, messieurs, depuis quelques années, les gardiens de prison exercent des misères, et plus particulièrement au quartier d'isolement et au quartier disciplinaire. Des fouilles à répétition. Ils saccagent les cellules et en détériorant le matériel des détenus. Lors des parloirs, à la remise des sacs de linge, les matons procèdent à la fouille. Des détenus ont pu s'apercevoir que leur linge a été piétiné et que des crachats y ont été déposés. Les familles ne sont pas respectées, notamment à la maison d'arrêt de Fresnes, où l'atmosphère est pesante. Lors des fouilles de cellules à Fresnes, une milice de surveillants casse, renverse les aliments à terre, piétine les affaires, et cela arrive quotidiennement. Durant les fouilles, notamment à Bois d'Arcy, alors qu'ils sont cagoulés, des coups pleuvent. Ils profitent de ce qu'on leur a donné, cette cagoule. Quand les familles viennent voir au parloir les gars du QI, ils les retrouvent changés par ces années d'isolement et les misères que les matons y exercent, s'expriment plus particulièrement sur les visages des détenus du QI. Je veux dire une chose qui ne tient qu'à moi. Comment cela se fait-il qu'à l'extérieur, dans les cités notamment, les jeunes se révoltent en cassant et brûlant les voitures, parfois celles de leurs voisins, qui sont dans la même misère qu'eux. Il arrive que les flics trinquent un peu, je dois le reconnaître, mais en prison, les matons vous respectent encore moins que ces flics. Les gars, si vous êtes capable de lancer des pavasses aux flics et de casser leur voiture, celle des matons vous poserait-elle un problème ? Je ne dis pas ça pour critiquer les jeunes des cités, mais je souhaitais qu'ils réfléchissent un peu, car c'est pas ton voisin de palier qui te défonce la gueule au mitard, qui te prive de liberté, qui te dit de te baisser, de tousser, qui te parle comme à une merde. C'est les matons. Alors il faudrait que les détenus apportent des témoignages de ce qui se passe. Mais plus massivement encore, parce qu'il serait peut-être temps que les trois quarts des détenus sortent la tête de leur cul, vu que actuellement, ils sont en train de nous la mettre profond avec le sourire. Apportez ces témoignages. Il faut que les personnes extérieures ne soient pas surprises que les matons rencontrent des difficultés dehors. De toute façon, les matons sont en train de casser leur image. Ils ne pourront plus mener la vie comme ils ont pu le faire jusqu'à maintenant. Qu'ils continuent à faire la misère au QI, ça va leur retomber tôt ou tard sur les doigts. Signé un prisonnier.
Pour ce courrier, donc publié donc en décembre 2003 dans le numéro 10 du journal, l'AP, en l'occurrence des surveillants de Bois d'Arcy et de Fresnes, qui éprouvent une grande honte en lisant ces quelques lignes, à l'idée que cette fouille et ces fouilles qui sont évoquées sont terribles, portent plainte. Alors, lors du procès qui a lieu donc 2 ans plus tard, en décembre 2005, donc au tribunal de Beauvais, car la directrice de publication était convoquée au tribunal de Beauvais, et qu'en cas de plainte, c'est la directrice de publication qui est convoquée au tribunal. La défense est simple, elle vient à la barre, elle dit que bon, bah, ce qui est publié, c'est publié, et c'est défendu comme tel, et qu'il n'y a pas de regret, pas de retour en arrière. Mais la procédure a été faite tellement n'importe comment que l'avocate à l'époque, Irène Terrel, soulève un certain nombre de nullités. Du coup, après, il y a jugement sur le fond, sur la forme mélangée. Sur le fond, on peut dire que ce qui est poursuivi et pointé du doigt particulièrement par le procureur à l'époque, c'est de dire qu'il, lui, il dit pas du tout que les exactions qui sont dénoncées sont fausses, mais il passe son procès à les justifier par le comportement des détenus eux-mêmes. Et c'est exactement ça, ce qui se passe en fait aujourd'hui quand, dans la dénonciation par la CGT pénitentiaire, quand elle dit « si vous continuez à faire ça, à publier ces choses dans le journal, vous allez inciter à la haine les prisonniers, en fait, et vous validez le fait que les prisonniers nous crachent dessus, nous détestent, etc. etc. » En fait, non. En fait, elles disent « les fouilles sont nécessaires ». Les fouilles sont nécessaires parce que les détenus font passer n'importe quoi, et si certains surveillants sont sadiques, ça c'est une citation exacte du procureur de l'époque, si certains surveillants sont sadiques, il l'a reconnu par ce fait, on l'a pas poursuivi, il n'a pas été poursuivi pour diffamation lui, hein. Il ne faut pas en faire une généralité. Très bien, personne n'en fait une généralité. Les gens, mais quand il s'agit de pointer des surveillants en particulier, t'as l'ensemble des surveillants qui les défendent. Donc comment ne pas en faire une généralité de fait, c'est les surveillants eux-mêmes qui en font une généralité en se défendant mutuellement et en couvrant leurs collègues. C'est un fait. La preuve, dans la note de l'administration pénitentiaire qui interdit le numéro 52 là, de ce mois-ci, enfin du mois d'octobre, et la direction de l'administration pénitentiaire dit texto qu'il n'aime pas qu'on sous-entende que d'autres surveillants couvrent d'autres surveillants et que la hiérarchie et que l'administration pénitentiaire couvrent des surveillants. Ça, c'est inadmissible de dire ça. Pourtant, le fait de porter plainte pour défendre les autres trucs n'est qu'une preuve supplémentaire qu'il s'agit de couvrir les agissements des surveillants les plus sadiques, les plus barbares et des plus violents. Enfin, je veux dire, c'est une démonstration en soi, ces attaques. Bref, le procureur le reconnaît lui-même à l'époque, quand on était en 2005. En bon humaniste d'ailleurs, il n'avait pas contesté que les détenus dénoncent les conditions de détention, mais il regrettait que les propos soient diffusés. Exactement la même chose qu'aujourd'hui. La question n'est pas de dire oui, il peut y avoir, évidemment, on peut dénoncer les conditions de détention. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit entendu. Il ne faut pas que ce soit diffusé. Donc on s'attaque à quoi ? Aux diffuseurs. Normal. Voilà. En plus, en mettant la misère aux prisonniers à l'intérieur qui sortent les trucs. Ça, on le sait, on l'a largement dit. Voilà. Bref, le jugement n'a pas été tranché sur le fond, parce qu'en fait, la procédure était faite n'importe comment, et c'était très compliqué pour eux d'argumenter quand même, le dossier était pourri par le procureur. Du coup, le 18 janvier 2006, le juge n'a pas tranché sur le fond, il a décidé que la procédure était nulle, et il a renvoyé l'AP et le ministère public à leur copie, ce qui a évité 2 500 € de dommages et intérêts à l'époque. Tant mieux.
2004, numéro 12, Donc là,
plusieurs... Novembre 2004.
De 2004, ouais, novembre 2004, numéro 12, de nouveau des plaintes sur plusieurs articles. Alors, remise en contexte, hein, il faut se souvenir qu'en 2003, donc, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, les ERIS, sont créées par Perben.
Alors, ministre de la Justice.
Voilà. Et donc, évidemment, elles commencent à faire leur boulot en prison et les lettres commencent à sortir pour dénoncer ce qui se passe. Et donc, c'est ces lettres-là qui, globalement, sont incriminées. Donc, il y a plusieurs extraits qui on peut lire. Alors, il faut quand même juste préciser que c'est... Il y a eu beaucoup de prisonniers qui ont porté plainte et qui ont témoigné directement des ERIS hein, à cette époque-là. Ils sont quand même assez nombreux. On va pas les citer, mais on a quand même un petit paquet. Et donc, nous, évidemment, on se fait le relais de tout ça. Et donc, dans les lettres, voilà, tu vas un peu nous lire les extraits en question qui ont été incriminés.
Et préciser aussi qu'à l'époque, il y avait eu la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, là. Créée par Jospin, qui dénonçait déjà elle-même les modalités de surveillance appliquées par les ERIS. Les modalités de surveillance appliquées par les ERIS, c'est-à-dire en fait le fait de rentrer en détention avec des cagoules et de défoncer la gueule des gens. Donc ça, la CNDS elle-même le disait. Elle ne le disait pas en ces termes-là. Bon, nous on le dit en ces termes-là, on peut nous poursuivre parce qu'on le dit en ces termes-là. Fait. Mais c'était basé sur des faits. Ils avaient dit « c'est basé sur des faits ». En fait, il n'y a pas un problème. Et de fait, il y avait eu énormément de recours qui avaient été posés par des prisonniers. Donc, que reproche-t-on à l'envolé donc dans ce numéro 12 de novembre 2004 un article « Retour des QHS, des parloirs hygiaphone, renforcement de la violence et de l'isolement, les ERIS dans toute la détention ». Page 2. « Que les interventions des ERIS avec leur tabattage gratuit et leur humiliation sans limite soient supprimées dans leur totalité. En clair, que soit retirée cette escouade de kamikazes de l'État » planqué derrière des cagoules, qui se plaisent à infliger des tortures physiques et psychologiques aux détenus, exactement dans la même lignée de ce que les Américains font subir aux prisonniers. Irakiens. Page 3. Les traitements inhumains, les abus de pouvoir, les peines éliminatoires, les tabassages et tortures sont devenus monnaie courante derrière les murs des prisons, au vu et au su de tous, politiciens, etc. Et c'est devenu presque banal. Donc ce témoignage de Gégé, qui était prisonnier à Fleury-Mérogis, portait donc, selon l'administration, atteinte à l'honneur ou à la considération d'une administration publique, en l'espèce l'administration pénitentiaire, en ce que ces faits insinuent que du fait du comportement des ERIS dans les établissements pénitentiaires, le droit ne serait pas respecté, l'arbitraire régnerait, la torture serait pratiquée, opérant une comparaison avec des faits de torture commis dans certaines prisons irakiennes ayant donné lieu à des poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires aux États-Unis. J'adore la retraduction par le droit de ce qui a été dit juste au-dessus. Hein. Un autre article. Rien n'a changé depuis 23 ans. C'était un courrier de Yann Talon du 7 juin 2004, dans ce même numéro. 6h30 du matin. Alors que je dormais, j'ai été étranglé, menotté, frappé. J'ai alors perdu connaissance, suite à la strangulation subie. Quand j'ai repris connaissance après quelques secondes, j'ai alors constaté que j'avais été bâillonné avec une espèce de serviette. J'ai été éjecté du lit, puis traîné de coursive en escalier avec comme vêtement un caleçon. Quelle humiliation! D'autant plus quand vous passez devant des gens qui composent la hiérarchie, et notamment féminine. Je me retrouve jeté dans un camion, rejoint par Charles Anthony. Nous en route dans la maison d'arrêt située juste en face, tous les deux sommes jetés au QD. Une fois sur place, ils nous ont retiré les matelas. De plus, une fois dans la cellule disciplinaire, ils m'ont retiré les menottes, et dans le même temps, l'un d'eux ne s'est pas gêné pour me prendre ma montre, qui a alors disparu. Ce témoignage, donc, selon l'AP, porterait atteinte à l'honneur, car les propos laissent croire dans les dernières lignes que la torture psychologique et physique serait pratiquée dans les établissements pénitentiaires en France. Enfin, la création des ERIS, un tract qui avait été distribué à Lyon, qui porterait atteinte à l'honneur, qui était aussi publié dans ce journal, était poursuivi, qui disait que les ERIS seraient responsables d'exactions commises en détention et gestionnaires d'un système carcéral violent, indigne et dangereux. Enfin, l'envolé est également inculpé pour considérer l'isolement carcéral comme une torture et la centrale de Clairvaux comme un mouroir. Parce que ça, ce sont deux autres plaintes qui vont se rajouter à ça. Parce que là, ces deux personnes qui devaient être extraites, on a demandé le jour du procès à ce que les personnes qui avaient écrit, à savoir Gégé, Yann Talon, soient extraits de détention pour venir témoigner. Ils n'ont pas été extraits, du coup, il y a eu un report qui a été demandé. Et ce report a fait que pendant ce temps-là, des plaintes sont tombées sur les numéros suivants, 13, 14, jusqu'à 15. Du coup, pour ces procès où c'est à nouveau, donc là, ce sont des textes de Thierry, à l'époque, qui parlait des matons qui étaient proches du FN, une lettre de Xavier encore sur les Héris, et une lettre de Xavier qui parle de matons en disant que ce sont des roquets de service, et un article de Laurent Jacquat à l'époque sur la mise en danger des prisonniers malades. À chaque fois, c'est quand même fou, hein, à chaque fois, il s'agit de dénoncer la violence de matons, la violence d'équipe de matons, donc à partir de quel moment cette violence, elle est structurelle, en fait, et elle appartient à l'institution, et plus juste à quelques brebis galeuses. À chaque fois, c'est ça, hein, ce qui se joue dans ces lettres. Et la création des Héris, c'est exactement ça.
Il faut rajouter un extrait qui était aussi objet d'une plainte. Et ça, c'est assez costaud, puisque c'est un extrait d'un livre dont une page complète avait été mise dans l'envolée, un numéro spécial sur Clairvaux, donc le numéro 13 de mars 2005. C'était l'extrait d'un livre de Bernard Cuau qui s'appelait « L'affaire Mirval » ou « Comment le récit abolit le crime ». Donc publié en 1976 chez Gallimard dans la collection « La France sauvage ». Il se trouve que Patrick Mirval, le 22 février 1974, lors d'un transfert en fourgon au bâtiment Détroit de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, se retrouve au quartier disciplinaire, auquel il est condamné pour 4 jours pour insolence, menace envers un gardien, etc. Je vais vous lire le passage incriminé. À la reconstitution, quand celle-ci aura enfin lieu, le 20 mai 1975, soit 15 mois après les faits, Danet, le premier surveillant, montrera sur un figurant par quel procédé, aussi plein de délicatesse que d'invraisemblance, il a passé le bras devant Mirval. À l'en croire, pas la moindre prise au cou. Personne, évidemment, ne prendra cette version au sérieux, pas plus le médecin que les avocats. Danet et Boutor, son adjoint, n'ont pas voulu délibérément supprimer Mirval. Cela, pour moi, est clair. Ils ont voulu le punir d'être noir, d'avoir 20 ans, le punir peut-être d'avoir été puni, et Mirval en est mort. Donc, ce livre était préfacé par Michel Foucault. Enfin, je veux dire, c'est donc
ce livre donc, était préfacé par Michel Foucault, sorti en 76 chez Gallimard. Il n'a pas été poursuivi à l'époque. Il n'a pas été poursuivi à l'époque parce que précisément, il fallait pas faire du bruit autour de ça. Entre temps, Monsieur Danet, donc qui était premier surveillant à ce moment-là, est devenu directeur de la centrale de Clairvaux. Lui, il n'a pas été plus inquiété que ça, malgré tout ça, malgré la mort de Mirval, et il est monté dans la hiérarchie, il est devenu directeur de Clairvaux. Quand on dit que c'est structurel, c'est-à-dire que ça, c'est un fait, on peut dire, c'est de la diffamation, non, c'est un fait, dire que c'est structurel. Bref, l'envolée republie ça.
Hors cadre.
Oui,
et directeur ensuite... Directeur hors cadre, le plus haut grade de l'administration pénitentiaire.
Voilà.
Et il a porté plainte personnellement, c'est-à-dire que là, on voilà. se retrouve donc...
En 2005.
En 2005, avec un procès qui regroupe trois plaintes.
Voilà. Les autres plaintes, on peut les refaire vite fait.
Trois plaintes de l'administration pénitentiaire et une plainte donc personnelle de Danet.
Voilà, c'est ça. Donc les passages qui sont visés en dehors de ce passage-là, hein, qui a trait visiblement à une affaire qui date elle-même d'il y a 25 ans qu'on ne fait que republier. Un témoignage de Thierry qui dit « Clairvaux, t'arrives, t'es pas déçu, tu te sens enterré, emmuré, enclavé. » Les matons sont fiers d'arborer les affiches du Front National, les briquets du Front National. Un discours très radical sur la question du racisme, de l'ordre. D'ailleurs, ils s'en cachent même pas. Et ce surveillant chef africain, bien évidemment, n'était pas apprécié. Un détenu fatigué, un malade mental, un monstre, un mec de 2 mètres de haut, un fou furieux, ce détenu a été contacté par des surveillants qui l'ont incité à aller tuer ce surveillant chef. Il y a une violence de la part des matons qui sont là-bas, puisque ce sont des matons volontaires. Une équipe de grosses brutes qui sont là pour casser du détenu, essentiellement du noir ou de l'arabe en gros. Donc, l'envolée demande à l'audience de faire citer Thierry, hein, pour qu'il vienne, qui est sorti à ce moment-là, hein, qui est plus en prison à ce moment-là, pour venir témoigner de ce qu'il a écrit et d'autres personnes qui sont passées par cette prison de Clairvaux pour raconter ce que c'est que la violence structurelle dans cette prison à ce moment-là.
Bah, on peut les citer, hein. Il y a Didier Cadet, il y a Laurent Jacquat, il y a André Alex et... Il y a Xavier qui...
Et Jean-Jacques de Félis.
Et Jean-Jacques de Félis qui était un avocat à l'époque
voilà.
du GIP. Donc ça, c'est quand même un paradoxe, et ça, il faut bien que tout le monde l'ait en tête. C'est-à-dire que L'envolé se retrouve à la barre pour diffamation. Mais elle fait citer comme témoins les auteurs des textes, qui, eux, en témoignant, ne risquent absolument rien. Mmh. C'est ça tout le jeu de la diffamation et de la presse.
C'est ce qui fait que ces procès, qui sont des moments pénibles auxquels on n'a pas envie d'aller, finissent par être des endroits où, en fait, on va, parce que ça permet à des gens qui sont à l'intérieur de dire un peu leur cas de vérité à la justice à ce moment-là, en étant cités. C'est ce qui fait que ce procès-là avait été reporté, parce qu'on avait demandé à ce que les gens soient cités, ils ne les avaient pas extraits, donc on avait eu un report. Là, lors de ce procès-là, donc comme tu le dis, il y a aussi Laurent Jacquat, parce que Laurent Jacquat a dit... Il dit « Par ce texte, relatant point par point ce qui m'est arrivé ces dernières années, j'aimerais vous démontrer comment l'on traite les malades du sida dans les prisons françaises et en même temps vous signaler les dysfonctionnements et les dérives que nous pouvons vivre à la centrale de Moulins, sous l'autorité de M. Villemot, exemple type du directeur abusant dangereusement de son pouvoir. » Donc ça, c'était poursuivi aussi. Hein. Ensuite, Xavier sur les Héris, donc là je ne reprends pas parce que c'est vraiment tout ce qui a été dit sur les Héris, il dit « Collectif répressif constitué de nostalgiques des QHS. À l'instar des voltigeurs de Pasqua, ces groupuscules de Nervi n'ont qu'une existence éphémère, là encore, ce qui est à craindre. Ben » voilà. Juste le parallèle que fait, c'est une blague, hein, Xavier à l'époque entre les surveillants cagoulés des Héris, qui sont devenus maintenant la norme, hein, ces équipes mobiles qui se déplacent pour empêcher l'expression collective publique des prisonniers à l'intérieur. Permettent des fouilles costauds en détention, gérer tout ce qui gêne la détention. Ils arrivent, ils sont là, c'est une bande de cow-boys. Ils adorent qu'on les compare à des GIGN. À l'époque, ils se comparaient aux GIGN de la détention. Comparons-les plutôt à une BAC, tu vois, à des agents de la BAC, hein, ou à des CRS cagoulés, ou à des braves aujourd'hui. D'ailleurs, ironie de l'histoire, Xavier parle à l'époque des Héris et compare ça aux voltigeurs de Pasqua, donc c'est Maton qui circulait, les flics à moto, un qui conduit, un qui tabasse derrière, qui avait tué Malik Houssekine en 86. Il compare ça à ces gens-là, à cagoulés, hein, qui ont été interdits après, qui ont été remis récemment en place par Didier Lallement, préfet de Paris, préfet de police de Paris, en appelant ça les braves. On l'a vu dans toutes les manifestations depuis 2 ans, des duos, etc., qui arrivent en moto et qui tapent les gens. Et c'est ce fameux Didier Lallement qui était à la tête de l'administration pénitentiaire en 2003, sous Perben, qui avait lancé ces Héris, en fait, qui avait mis en place les matons cagoulés des Héris à l'époque. Donc voilà, c'est quand même, on retrouve quand même souvent les mêmes personnes à l'origine de ces choses-là.
Peu de temps, donc conclusion, qu'est-ce qui s'est passé pour ces procès ?
Alors, ces procès, ces procès qui ont fini par avoir lieu, qui ont fini par avoir lieu, pardon, à la date exacte, pour pas dire de conneries, en décembre 2006. Donc là où les gens sont extraits et viennent témoigner, le 19 décembre, au tribunal de Beauvais. Et donc là...
Donc l'envolé est condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis sur chacun des 3 plaintes, donc 3 000 euros, voilà. Plus 500 euros de dommages et intérêts pour Danet.
L'ex-directeur de Clairvaux, ex-surveillant.
Voilà. Donc ça, voilà ce qui s'est passé au final.
Et dans ses motivations, le tribunal de Beauvais, il déclare à ce moment-là ne pas mettre en douze les violences dénoncées. C'est comme...
Répète, là, j'ai pas bien compris.
Ne pas mettre en doute les violences dénoncées. C'est comme le procureur du procès précédent qui dit « Ce que vous dites n'est peut-être pas faux. » Le problème, lui, le procureur de la plainte d'avant, disait « Le problème, c'est que ce soit dit publiquement. » C'était très clair ce qui posait problème. Là, c'est plus que ce soit dit publiquement, c'est... Il y a diffamation parce que la diffamation, elle est constituée dans la forme et par les mots employés. En ajoutant que la faiblesse de la peine le rend symbolique, car vous avez décrit maladroitement une situation bien réelle. Cette formule, description maladroite d'une situation bien réelle.
Voilà.
Voilà pour les histoires précédentes.
Au prochain numéro. Comme on dit, là, on peut vraiment le dire.
Voilà, ouais, la suite. Suite au prochain numéro de ce feuilleton dont on tiendra au courant, évidemment. Mais c'était pour faire retour sur... ces plaintes. On reprendra ça plus tard, on reviendra en long sur le compte-rendu d'un procès aussi qui a eu lieu un petit peu plus tard dans une émission dans le courant de l'année.
Hey. Faisons. Combien de rappeurs qui t'ont fait des morceaux sur ça? On va te faire la même, frère. Moi, je suis venu te faire un hymne. C'est l'hymne des temps là. L'arsène, moi. Hey. Prison, c'est l'hymne des
dollars. Répétez après moi, on baisse les matons. Prison. Pour ce mitard, crier à haute voix, on baisse la justice. Prison. Pour ce manche d'art, crier au effort, on baisse les stars. Prison. Pour ce cabache. Y'a que Dieu qui peut me juger. J'aurais pu faire comme tout le monde, te raconter la même chose. Mais la toile, tout le monde connaît, on a tous une autre dose. La cause AFN non désirable, où les noirs et les arabes sont tous considérés comme des misérables. Mais nique sa mère, moi j'ai purgé ma peine. Pour mes refs en cabale, stressés par le système. Moi je suis là pour faire un hymne, pour tous mes dollars. Toutes les putes on élimine jusqu'à que finisse le cauchemar. Et quand il l'accomplit, fais la péter à la fenêtre. Les teufs ont dit au matou que je suis revenu pour lui mettre. C'est la mutinerie à Fleury, on y est à Fresnes. De Villepinte au mettre à grâce et à lui une main. Un brin de liberté, un colis bien livré. Peu importe la peine, y'a que les murs qui vont rester. Tenez bon, mes frères, mes sœurs, gardez la pêche. Un cerf de craquer, pané pour caner en calèche. Prison, c'est l'ennemi des dollars. Répétez après moi, on baisse les matons. Prison, pour ce mitard, crier à haute voix, on baisse la justice. Prison, pour ce manche d'art, crier au effort, on baisse les stars. Prison, pour ce cabage. Y'a que Dieu qui peut me juger. Le temps s'arrête, je sais, on perd de l'oseille. Je sais, t'as rien fait, je sais, tu voulais pas. On sait, t'as mal, j'ai mal. Voir que la justice garde la tête haute. Ne tombe pas dans leur supplice. Le pardon est divin, ne l'oubliez pas. L'être humain est faible, les erreurs se font pas par choix. Donc faut pas se prendre la tête, même si t'as pris perpète. Facile à dire, dur à faire, tu me diras peut-être. Mais n'oublie pas qu'ici la vie est éphémère. Et que le seul remède est le repentir sincère. Si tu sais ça, t'es intouchable malgré les coups de blouse. Au parloir dur de voir sa mère faire des crises. Encore plus dur quand t'es innocent et que la connerie humaine te mène en zonze. La solitude te ronge et te plonge dans les songes d'un lion en cage. La peau teintée de bronze, la vérité voilée d'un masque de ronce. Prison, c'est l'ennemi des dollars. Répétez après moi, on baisse les matons. Prison, pour ce mitard, crier à haute voix, on baisse la justice. Prison, pour ce manche d'art, crier au effort, on baisse les stars. Prison, pour ce cabache. Y'a que Dieu qui peut me juger. C'est l'imitola. Un deuil que les frères, la toile s'abrutit. Vaut mieux s'instruire, se prendre la tête pour des broutilles. Oh, qu'est-ce qui t'arrive, ne gratte pas leur cacheton. Les neuroleptiques c'est art, plutôt pense à te racheter. De tes fautes, la salade est le meilleur des calmants. Crains-le, prie-le, Dieu nous aime tellement. T'as pas honte, tu tailles les veines pour un paquet de clopes. Tu veux quoi, quand t'as sorti les petites traites de salopes. On fuit jamais un tête à tête, même si c'est un Golgoth. Pour les oufs qui prennent la fuite en hélicoptère. Pour berbère, teuf, teuf, dig, dig et crimouche. On baisse, baisse les indiques, accrochez-vous. Prison, c'est l'ennemi des dollars. Répétez après moi, on baisse les matons. Prison, pour ce mitard, crier à haute voix, on baisse la justice. Prison, pour ce manche d'art, crier au effort, on baisse les stars.
Toujours à l'écoute de l'envolé, 106.3, tous les vendredis soirs. On rappelle l'adresse qu'on n'a pas fait encore ce soir pour envoyer des courriers. C'est 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, L'Envolée. Le mail, c'est contact@l'envolée.net, @l'envolée sur Twitter, @l'envolée IDF sur Snap et l'envolée journal sur FB. Numéro de téléphone 07 52 40 22 48. Allons recevoir un coup de fil de Alex qui va nous faire un petit point sur ce qui se passe depuis une semaine dans les centres de rétention et les suites des révoltes de la semaine dernière.
Salut Alex.
Salut.
Faisons suite à ce que vous avez un peu raconté en long la semaine dernière sur ce qui s'est passé dans les CRA, notamment Vincennes et Lille-Amelot la semaine dernière. Faisons un point aujourd'hui pour savoir ce qui s'est passé entre-temps, à la fois côté à l'intérieur des CRA et puis côté judiciaire.
Ouais. En gros, ce qu'on expliquait la semaine dernière, c'est que ça fait plusieurs mois qu'il y a de plus en plus de répression à l'intérieur, notamment sur les tests PCR, et que du coup, il y a de plus en plus de prisonniers en centre de rétention qui font 90 jours, une comparution immédiate voire de la prison, qui retournent en CRA. Et donc il y a pas mal de monde à Ménilamelot, donc il y a un des plus gros centres de rétention d'Île-de-France, où il y a des gens qui sont au-delà de leurs 90 jours, qui sont à 120 jours, 130 jours, etc. quoi. Du coup en ce moment ils sont en train de contourner leur délai maximum de rétention, enfin d'enfermement des étrangers. Et ça a créé à la fois, enfin ça a créé beaucoup de galères à l'intérieur. C'était passé par pas mal d'étapes de résistance individuelle, refus de test, procès, etc.
Refus de test parce que le test PCR est exigé par les destinations d'expulsion, quoi, par les pays qui sont censés les recevoir. Donc le fait de ne pas faire le test fait que tu es techniquement, administrativement, pas expulsable.
C'est ça, et pour eux, donc, c'est un refus de se soumettre à une mesure d'éloignement, et ça, c'est un délit qui est passible de 3 ans de prison. Du coup, les gens, ils prennent pas 3 ans de prison, mais par contre, ils prennent des 3 mois, 6 mois, ou des interdictions de territoire. Ce qui fait qu'après, ça justifie un nouveau placement en centre de rétention. Et donc, ça permet d'enfermer comme ça hyper longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait des évolutions administratives. Et c'est le cas, par exemple, du Mali, qui, là, il y a 2 semaines, a décidé que les tests PCR n'étaient plus obligatoires parce que, soi-disant, il y avait une quarantaine sur place. Et donc, il y a plein de gens qui, ont fait 6 mois de crade, la prison, etc., qui, tout d'un coup, se retrouvent expulsés parce que l'État, il a réussi à les enfermer suffisamment longtemps pour que la situation, elle se débloque, quoi.
Mm-hmm. Donc, oui, alors que là, par exemple, on lisait ce matin dans la presse aussi un retour sur ce qui s'est passé à Bordeaux, des gens qui sont condamnés aussi, pareil, pour avoir refusé un test qui a pris du ferme. Là, c'était pour la Tunisie. Et là, le test, il est toujours obligatoire. Du coup, il juge, mais le truc particulier, c'est qu'il juge que c'est un refus, en fait, c'est refus de se soumettre à une mesure d'éloignement. C'est ça que tu disais. Mais en fait, c'est pas le cas. En fait, c'est le refus de se soumettre à un test. Donc, même légalement, c'est assez bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas des avocats qui, précisément, bagarrent sur ce point particulier en disant ce que refusent les gens, c'est pas, ils se débattent pas au moment où ils sont embarqués, juste ils refusent de se soumettre à un test. C'est deux choses distinctes. Juridiquement, il n'y a pas d'avocat qui arrive à défendre ça, quoi.
Et bah, pour le moment, les jurisprudences, elles ont plutôt l'air d'être dans l'autre sens. Enfin, les gens, ils ont l'air de juste prendre très cher sans interaction de territoire, sans peine de prison. Et les juges, ils ont l'air de considérer ça comme un refus de consulat ou comme un refus de donner ses empreintes dans une mesure d'éloignement. On considère pas du tout que c'est une question de rapport à son corps, rapport à la médecine ou quoi que ce soit, quoi.
Oui, de choix individuel, le test n'est pas obligatoire en soi. À partir du moment où tu refuses d'aller quelque part, où t'as pas décidé d'aller quelque part, on ne te force nulle part à faire des tests à l'extérieur. Il y a vraiment... Encore une fois, c'est fou comment la justice là avoue très très clairement qu'elle fait office de courroie de transmission dans le stockage des gens tant qu'ils peuvent pas être expulsés ou dans l'expulsion dès que la fenêtre s'ouvre, quoi. Il y a rien d'autre, quoi. Vraiment, c'est très très clair.
Ouais. Donc. Et le dernier truc par rapport à ça, c'est qu'en fait, avant le passage de la loi sur l'immigration, donc avant qu'ils passent les délais d'enfermement de 45 à 90 jours, en fait, c'était déjà une pratique qui était arrivée dans les centres de rétention que de se servir de ce délit-là. Donc des gens qui refusaient le consulat, refusaient de donner leurs empreintes, pour qu'ils fassent en vrai 90 jours de centre de rétention. Donc quand la loi elle a été appliquée il y a 2 ans, en fait il y avait déjà un certain nombre de prisonniers qui faisaient les 90 jours. Et là on est en train de passer sur du 130-180 jours. Donc en fait c'est une nouvelle étape, et je sais pas si ça va passer par une normalisation législative genre dans les prochaines années, mais en tout cas j'ai l'impression que ça s'oriente un peu comme ça, quoi. Là ils sont en train de tester plein de trucs administrativement, judiciairement et tout. Une fois que ce sera une pratique normale, et ben en fait ils vont faire péter le délai max de rétention. En tout cas, c'est une possibilité, quoi.
Mais classique, mais t'as tout à fait raison de le rappeler, parce que la question des 90 jours, elle a mis 10 ans à se mettre en place, en vrai. Il y a eu, on est passé de 30 à 48 à 60 à 90, enfin je sais plus, peut-être que je me trompe sur une des étapes en particulier, mais moi j'ai le souvenir vraiment que dans les années 2000, entre 2005 et 2012 ou un truc comme ça, précisément on a eu une espèce de tous les 3 ans, il y avait un nombre de jours qui se rajoutait, quoi, pour donner l'occasion à chaque fois à l'administration de pouvoir expulser et que la procédure aille au bout sans être obligé de relâcher les gens. Mais ça, vous l'avez beaucoup décrit en fait à l'antenne, ce processus où de toute façon la prison sert effectivement à cet endroit-là de palier d'aller-retour. Là, il reste au droit à s'aligner sur la réalité des pratiques qui sont déjà actuelles, quoi. Effectivement, c'est ce qu'on a à craindre dans la période qui vient. En rajoutant cette histoire de test Covid là, qui est donc assimilé à un refus de consulat ou un refus d'empreinte, quoi. Ok, donc c'est clairement ça, quoi.
C'est ça. Et du coup, donc ça a fait que les situations ont été hyper tendues au centre de rétention de Ménil. Le CRAI commence à être pas mal plein, donc c'est 240 places max, théoriquement, et il commençait du coup à y avoir du monde dans toutes les cellules. Il y a pas mal de monde, donc ce que je racontais, qui ont été prolongés, qui ont fait au-delà des 90 jours là-bas. Et mercredi dernier, donc le 20 janvier, le matin, il y a une révolte dans 2 bâtiments où... Il y a tous les bâtiments qui rejoignent du CRA 3, donc de la moitié du centre de rétention. Et il y a 2 bâtiments qui sont brûlés, un qui est brûlé entièrement, et ça veut dire qu'il y a 22 cellules qui sont plus utilisables en l'état. Donc il y a 2 personnes par cellule au CRA du Ménil-Amelot, donc ça fait 44 places qui là sont plus utilisables. Donc, de fait, il y a une capacité d'enfermement là pour le centre de rétention qui est diminuée. Mmh. Mais du coup, forcément, il y a une répression quand même assez énervée qui s'est passée à l'intérieur. Intervention des CRS, de la PAF, donc de la police aux frontières qui gère le CRA, des keufs locaux, etc. Et il y a au moins 8 personnes qui ont été arrêtées suite à ça. Donc, qui ont été désignées comme ayant fait partie de la rébellion. Ce qu'ils ont qualifié juridiquement, c'est la violence en réunion avec armes. Et 4 personnes qui seraient poursuivies pour l'incendie en lui-même, quoi. Et donc, mardi dernier, donc là, il y a le 26, il y avait un procès au tribunal de Meaux pour 8 des personnes du Ménil-Amelot qui avaient été placées en détention provisoire juste après l'incendie, donc vendredi dernier. Et dont les avocats ont demandé le report. Et donc, ça s'est conclu par à nouveau un placement en détention provisoire jusqu'au 5 mars, où ils vont juger à la fois la question de la révolte du groupe de 8 et la question de l'incendie, quoi.
Wow.
Et donc, il y aura un nouvel appel public à aller se rassembler devant le tribunal de Meaux.
Parce que là, il y avait eu un appel à y aller qui a été suivi. Il y avait un peu de monde qui est venu.
Ouais, c'est ça. Du coup, l'Assemblée, là, contre les CRA d'Île-de-France, elle avait lancé un appel pour se rejoindre au tribunal de Meaux mardi à 12h30. Il y avait une vingtaine de personnes, ce qui, en vrai, pour le tribunal de Meaux, est quand même pas mal dans la période, quoi.
Oui, c'est clair, ouais.
Voilà. Après, les keufs et la présidente du tribunal, ils sont servis d'un décret qui est sorti il y a quelques mois pour interdire l'accès au tribunal, soi-disant pour des raisons sanitaires. Bon, c'est un truc qui valait pas légalement, quoi. Mm-hmm. C'est genre totalement illégal. Mais voilà, le tribunal de Meaux, il est gardé par des keufs. C'est pas la sécurité, je sais pas, comme dans d'autres tribunaux.
Oui.
Voilà. D'accord. Du coup, bon, il y avait une quinzaine de keufs, il y avait pas moyen de rentrer. Ils ont fait durer les affaires à l'intérieur pour que les gens, ils soient jugés après 18h, pour plus qu'il y ait de soutien dehors.
Ah ouais.
Okay. Voilà, parce que mon couvre-feu oblige, le rassemblement, il devait terminer, quoi, au bout d'un moment.
Oui.
Mais ça a permis quand même de discuter un peu dans la ville, de parler aux gens qui étaient convoqués au tribunal, enfin voilà, de ramener un peu l'histoire.
Oui, de rendre visible, de désinvisibiliser à chaque fois ce que subissent dans le silence le plus total les personnes qui sont jugées, que l'État aimerait réussir à foutre à la mer. En fait, c'est ça.
Okay, voilà, et du coup, il y a une partie des gens qui sont aussi poursuivis pour refus de test dans ces buts-là. Enfin, okay. Et donc ça, c'est au Ménil-Amelot. On continuera des nouvelles quand il y en aura. Il y a peu de prisonniers en ce moment qui veulent témoigner publiquement parce qu'ils sont encore dans leur enquête et que voilà, ça reste compliqué, quoi. Et du coup, juste pour dire, il y a eu pas mal de transferts du CRA 3 vers le CRA 2. Donc s'il y a des gens qui veulent appeler pour soutenir, prendre des nouvelles, etc., il y a les cabines qui sont disponibles, les numéros de cabines publiques, donc pour parler directement aux prisonniers du centre de rétention, sur le blog abalekra.noblog.org, avec toute une série de conseils pour essayer d'anonymiser le témoignage, s'il y a un témoignage qui en sort, enfin, en tout cas, pas mettre en danger les gens, que ce soit pour une répression judiciaire ou juste des keufs au quotidien, quoi.
Oui, très bien. Oui, continuer en ce moment à montrer que des gens, c'est très important, se soucient de ce qui se passe à l'intérieur et soutiennent les gens, c'est très important. C'est important tout le temps, mais encore plus quand il y a un mouvement, encore plus quand il y a une répression, et encore plus dans cette période d'isolement, quoi, où vraiment, ils sont encore plus isolés à l'extérieur, donc encore plus isolés à l'intérieur. Et ça, c'est très net, ça se ressent. Ok.
C'est ça. Okay. Et du coup, juste, on parlait des refus de test PCR, et en ce moment, le CRA de Vincennes, qui est une autre prison pour sans-papiers d'Île-de-France, il y a de plus en plus de prisonniers qui sont testés positifs, là, ces derniers jours. Du coup, il y a tout un bâtiment là qui a été mis en septembre, donc impossibilité d'avoir des parloirs, impossibilité d'aller au coffre pour récupérer ses affaires.
Wow.
Il y a des gens qui sont mis au mitard parce que testés positifs, donc ils passent 5-6 jours au mitard, puis qu'on relâche, genre sans refaire un test, sans quoi que ce soit, alors qu'ils ont encore des symptômes. Et ça a donné pareil mercredi dernier, il y a eu un blocage de promenade qui a duré plusieurs jours dans le CRA 1 de Vincennes, avec un début de grève de la faim. Voilà, les gens, ils ont essayé de se mobiliser pour faire sortir un peu les infos et pour essayer d'obtenir des soins. Et en fait, ce qu'ils racontaient, c'est que c'est hyper compliqué parce qu'à la fois, ils aimeraient bien qu'il y ait des tests pour savoir qui est positif, qui ne l'est pas, pour éviter de tous se contaminer. Et en même temps, ils savent que faire un test et être décelé négatif, ça veut dire une expulsion, quoi. Et du coup, c'est une galère qui est genre... c'est un truc qui est pas soluble. Et du coup, les gens, ils demandent juste plus de tests, la fermeture du CRA pour pouvoir avoir des soins normaux dehors, quoi.
Ben, bien sûr. Comme très souvent, hein, à cette antenne, on le dit, la solution, hein, en général, ça reste quand même de laisser les gens sortir pour éviter qu'ils vivent dans des conditions inhumaines, qu'ils soient brutalisés, qu'ils soient pas soignés. et qui subissent soit des allers-retours avec la prison, soit un risque avec d'être envoyés dans des pays dont ils ne, auxquels, dans lesquels ils ne veulent pas aller, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est quand même ça. Et voilà. Et du coup, pour Vincennes, l'autre truc, c'est que donc en ce moment, il y a un lycéen, enfin juste pour le dire, il y a un lycéen qui est à Paris, qui est au centre de rétention de Vincennes avec une pétition et des syndicats et Réseau Éducation Sans Frontières qui essayent de se bouger pour lui. Mmh. Et du coup, voilà, on mettra peut-être le lien de la pétition dans le truc. Ce serait bien que ce soit pour tous les prisonniers, évidemment, mais en tout cas, voilà, il commence à avoir une solidarité pour certains prisonniers. Et du coup, ça fait aussi sortir les infos de comment ça se passe à l'intérieur, un peu plus par d'autres biais que par nous, quoi. Et donc ça, c'est, ça reste un peu positif. Et le dernier truc que je voulais dire sur Vincennes, c'est que là, la situation, elle est quand même un peu particulière parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont testés positifs. Et en fait, ce serait le moment pour l'association, là, qui est dans le centre de rétention, l'association qui fait du soutien juridique, mmh. de faire des demandes de mise en liberté collective, en expliquant que là, c'est juste intenable comme situation au niveau de l'enfermement et de la mise en danger des personnes. Et pareil, le numéro de l'ASFAM, donc qui est l'association qui est présente à Vincennes, il est public. Mmh. Et ça vaut le coup, en fait, de les appeler pour leur rappeler que ce serait important de faire ces DML. Parce que pour le moment, elles ont pas décidé de le faire et la situation, elle peut évoluer très vite. Dans 10 jours, ça se trouve, ça servira plus à rien. Donc c'est maintenant, en fait, qu'il faut lancer ce truc-là, quoi. Et qu'il faut les bouger.
Très bien. Donc, en gros, inciter l'assaut qui reste à l'intérieur le plus qu'on peut à faire ce travail-là, là, et aider les gens à sortir en ce moment, sachant que la seule solution, mais raisonnable, en fait, hein, c'est ça qui est fou, c'est qu'à chaque fois... Ça a l'air très radical de dire ce qu'on dit, et pourtant c'est la vérité la plus simple et la plus raisonnable, à savoir la meilleure manière que les gens ne subissent pas des conditions atroces, ce soit d'être dehors. En fait, voilà, et sachant que dehors la misère continue et la merde et la pression policière continue, etc. Mais au moins t'es pas entassé dans des cellules à attendre sans avoir accès à tes affaires et dans l'attente d'un hypothétique vol, d'un hypothétique test ou d'un hypothétique tabassage. C'est quand même très pénible. Ok, que tout le monde fasse ça. Je rappelle juste, pour rebondir sur ce que tu disais sur la pétition pour le lycéen, en l'occurrence, on se rappelle vraiment, à la fin de l'année 2007 et à l'année 2008, que énormément de gens se mobilisaient à l'époque, dans les lycées, que ce soit des profs, que ce soit des parents, que ce soit des élèves, pour venir en aide à d'autres élèves qui n'avaient pas de papier et qui étaient menacés d'être expulsés, et ça avait contribué à faire beaucoup de mobilisation à l'époque. Hein, c'était le début du réseau Éducation Sans Frontières quand même, qui avait fait beaucoup de boulot à cet endroit-là, et ça avait contribué à faire que beaucoup de gens se retrouvent à aller manifester devant des centres de rétention, donc des prisons pour étrangers, devant lesquelles personne n'allait jusque-là. Et ça a un petit moment, ça a soulevé un tout petit peu le couvercle, et on était juste avant les 90 jours justement, et on était avant le fameux incendie de Vincennes de 2008. Voilà. Et parce que la période était très tendue. Mais il y avait eu cette convergence à l'extérieur entre des gens qui se battaient à la base pour un copain, quelqu'un qu'ils avaient dans leur classe, etc. Et puis le problème global que posait la politique répressive de l'État à l'égard des gens qui n'avaient pas les bons papiers, comme on dit. Voilà. Gageons que ça fera la même chose dans les temps qui viennent. Espérons-le. Voilà.
Et tu peux l'espérer. Voilà. Et du coup, moi, je voulais juste donner deux rendez-vous pour celles et ceux qui
vas-y,
sont dehors.
Vas-y.
Il y a une manifestation samedi, donc ce sera le lendemain là, de la diffusion de cette émission. C'est à midi à la place Bellecour à Lyon pour demander la fermeture de tous les centres de rétention et empêcher la construction des nouveaux centres de rétention, parce qu'il y en a trois qui sont prévus pour la fin de l'année 2021.
Ouais.
À Lyon, Bordeaux et Orléans. Et le week-end d'après, le 7 février, on aura l'occasion de le redire, mais pour celles et ceux qui sont en région parisienne, il y a l'idée de venir se rassembler publiquement à Barbès pour soutenir les prisonniers. Et du coup, voilà, pareil, on donnera le rendez-vous la semaine prochaine.
Très bien. Et tu peux rappeler aussi la date du report à mots du procès des 8 dont tu parlais ?
Ce sera le 5 mars, et pareil, de la même manière, il y aura un appel public qui va circuler dans les prochaines semaines pour qu'on soit le maximum, pour qu'on soit le maximum à y aller, quoi.
Ok. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Alex, pour ce point.
Merci.
Et puis, à la semaine prochaine.
Ouais, carrément. Beaucoup de force à vous.
Ciao.
Ciao.
On va faire les petits messages de la fin, là. Mika, merci pour les news. Bravo pour la niaque. L'infâme. Tu nous entends depuis le transfert ou toujours pas ? Un grand salut aux encagés des quartiers d'isolement et en particulier à ceux qui se reconnaîtront. tout ça, c'était des messages de K. Ensuite, force et solidarité avec les enfermés des prisons pour sans-papiers, aux familles, aux proches, aux malades et aux mamans à l'intérieur, bien sûr. Et continuez de lire l'envolée, d'écrire. Et voilà, nous on lâche rien et on espère que tout le monde lâche rien.
Bah, il n'y a pas d'arrangement évidemment. Et par ailleurs, si là ils estiment que c'est nécessaire d'attaquer, ils le font comme on l'a vu là par le passé, ils le font quand ça les saoule. En fait, quand ils ont envie de le faire, ils décident de le faire, ils le font. L'envolée est rediffusée sur FPP mercredi à 8h30. Sur tous les réseaux, vous pouvez écouter cette émission. Et puis, portez-vous bien, tenez-vous mal, comme on disait. En tête de ce numéro 52 censuré de l'envolée. Ciao à toutes, ciao à tous, à la semaine prochaine.